Alors, je vous ai parlé donc la dernière fois sur la puissance de pardon. Et finalement, je ne maîtrisais pas vraiment le besoin de parler de ça. Et c'est sorti comme ça, j'ai parlé, vous vous souvenez de Étienne, voilà, je vais reprendre encore ce verset-là. Et plusieurs parmi vous, vous êtes venus me voir et oh là là, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne vais jamais pardonner. Ma belle-mère, elle est formidable, mais elle est belle, mais elle est pénible et je ne vais jamais lui pardonner. Et moi, j'aimerais vous dire que même si elle n'est pas belle, bah, aimez-la. Parce que moi, je n'avais pas de problème avec ça. Je suis élevé déjà dans une famille chrétienne, deuxième génération, je suis troisième. Mes enfants que vous connaissez, voilà, bah, tout n'est pas parfait. On est bien d'accord, hein, Aurélie, hein? Quelquefois, on se fait des grimaces, quelquefois, on lève la voix, ça chauffe quelquefois. Mais on n'a jamais permis que la haine, le jugement rentre dans la famille. Vous comprenez? Et quand je me suis retrouvé devant plusieurs personnes ici, j'ai compris que finalement, il y a des gens qui traînent ces choses-là. C'est difficile au niveau du pardon, c'est terrible. Et je me suis dit, oh là là, j'apprends encore des choses à mon âge. C'est incroyable, hein? On apprend toujours, hein? Alors, j'aimerais vous juste dire comment moi j'ai réglé ce problème-là. Jamais de problème au niveau de la famille, jamais de problème avec mon épouse, avec mes enfants. Mais tout au début, nous avons réglé ces problèmes-là. Vous savez, on a commencé très jeune. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à prêcher et on a commencé à réunir les gens. Donc très jeune, on s'est marié et puis deux semaines après, on travaille. Voilà. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis dans les milieux chrétiens, parce que mon passé à l'époque, c'était les églises étaient évangéliques, pentecôtistes, il y avait la présence de Dieu, mais on était quand même assez traditionnel, religieux, etc., etc. Et puis moi, j'ai connu quelqu'un, et puis surtout, j'ai observé les anglo-saxons où ils ont 40 ans en avance par rapport à tout ce qui est francophonie, au niveau d'expression, la louange, etc. J'observais tout ça, je me suis dit, mais on ne peut pas rester comme ça. J'ai fait un virage très vite, mais très vite, radical. J'ai dit, et pourtant j'étais jeune, j'ai dit, moi j'ai pas le temps à perdre ici, j'ai pas le temps à perdre. La vie est tellement courte, il faut être efficace. Alors voilà, j'ai regardé à droite, à gauche, on allait dans d'autres pays voir ce qui se passe. Et puis voilà, on a pris le virage. On a pris le virage. Tout à coup, voilà, dans l'église que nous avions à l'époque, ça change, les gens se lèvent. Ah ben avant, ils ne se levaient pas. Les gens commencent à claquer les mains. Ah bon? Oh là là, c'était catastrophe. C'était le diable. Tout à coup, j'achète le rétroprojecteur à l'église. C'était à l'époque avant, hein, rétroprojecteur. On m'a dit, Antoine, le premier démon est entré dans notre église. Oh, le premier démon. Voilà. Et tout ça, il fallait gérer. Et je ne voulais pas reculer, je ne voulais pas lâcher. Je savais que Dieu nous prépare quelque chose. On a lancé la famille. Je savais que je dois être un repère, voilà, un leader pour ma femme, pour mes enfants. Et puis voilà, il y avait beaucoup d'amis qui sont devenus mes ennemis. Mais terribles, des ennemis, terribles. Alors je me suis dit, parce que on a claqué les mains, parce que à l'église on s'est levé, parce que on priait pas à genoux, parce que Christian a enlevé le foulard. Bon. Et tout ça, c'était pas facile à gérer. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Comment on va commencer dans l'œuvre de Dieu? Voilà, il y a la famille, il y a les amis. Si on se bat comme ça contre l'autre, et je ne veux pas reculer, je ne veux pas reculer. C'est bien ce qui était avant moi, mais là, il faut que j'avance. D'accord? Et puis, vous savez comment j'ai réglé. Cette situation. Une fois, j'ai parlé avec un prédicateur que pour moi, à l'époque, j'avais 25 ans, 26 ans, voilà, 30 ans, hein, cet âge-là. Et j'ai parlé avec lui. Pour moi, il était vieux, hein, parce que j'avais même pas 30 ans. Et lui avait 65 ans, donc quelqu'un qui a 28 ans, ben 65 ans, on est vieux. J'ai parlé avec lui et je lui ai dit, tu sais, mais tu vois, lui, il parle comme ça, puis l'autre, il le juge, et puis... Et lui, il dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux réussir dans ta vie spirituelle? Ah ben, au moment où tu entends de mots négatifs, au moment où tu apprends les choses, les jugements, la critique, ah ben, tu chantes. Chante? Ben, moi, je suis un mauvais chanteur. Non, non, mais il dit, tu chantes dans ton cœur. Et puis lui, il va te parler. Il va juger. Il va raconter les choses sur les autres, etc. Et toi, dans ton cœur, c'était pas facile pour moi d'accepter ça. Mais si on me critique comme ça directement, si on me parle de choses méchantes en face, ah ben tu chantes, tu murmures dans ton cœur. Et ensuite, il m'a dit, bah, tu bénis tes ennemis. Tu les bénis. Ne prononce pas les malédictions, mais les bénédictions. Tu penses à ces gens-là, que ces gens-là sont remplis de la haine, ils passent à côté du salut. Et ton objectif, c'est le sauver. Ce n'est pas ta personne, mais c'est eux. Ah bon? Et nous avons mis ça en place, tout jeune. Et aujourd'hui, franchement, mais je suis sincère avec vous. Je pense que même si on me coupe en 10 morceaux, 100 morceaux, chaque morceau va bénir la personne qui me coupe. C'est tellement fort en moi. Mais c'est quelque chose de surnaturel. Nous avons réglé ça. La première fois, je vous parle de ça parce que plusieurs parmi vous sont venus me voir, me parler de ça. Tout jeune, on arrive chez mes beaux-parents. Et mes beaux-parents servaient Dieu vraiment, intègres. C'est des gens intègres qui ont connu la guerre. Ma belle-mère qui est venue de l'Ukraine pendant la guerre en Allemagne, etc. Les gens qui ont souffert. Voilà, puis ils se retrouvent après la guerre, dans la paix, etc. Ils ont servi Dieu dans l'intégrité, mais dans la piété pour eux. D'être sauvé, c'est la piété. Vous comprenez? Ça dépassait la grâce, même. Voilà. Et puis, on arrive là, la même chose. Je vous raconte ça, parce que, voilà, il faut régler ça parmi nous. Hein. Il faut régler ça. Et voilà, mon beau-père, qui aimait Dieu, qui, je vous répète, hein, il a commencé à me juger, me parler... tu vois, maintenant vous claquez dans les mains, et puis d'autres choses, je vous lance une chose comme ça. Il m'a commencé à juger. Tu t'es séparé de Dieu, c'est la malédiction qui va couler sur toi et tout ça. Quelqu'un qui aimait Dieu, mais voilà, il a fait comme ça. Et Christiane, là, je suis fier d'elle parce qu'on était tout jeune. Puis là, elle m'a défendu. Et il a commencé à crier sur son père et lui a dit « Non, pas gentil. » Et moi, j'étais là Et je dis, c'est son père, c'est son mon beau-père. Elle lui parle comme ça. C'est pas possible, c'est ça d'être chrétien. Vous comprenez? Ils se sont disputés, je suis entré dedans aussi, je l'ai attrapé comme ça. Il dit, on sort. Et ça se vit aujourd'hui. Et on est sorti, j'ai dit, bon, on va régler ça. Elle me regarde. C'est la première et la dernière fois que tu t'es disputé avec tes parents. La première et la dernière. Elle me regarde. Si tu veux qu'on vienne voir tes parents avec nos enfants, elle n'a pas de dispute. Ah bon? D'accord. Ah ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, tu vas t'écraser. Quand ton père va commencer à nous attaquer, ah ben, tu baisses la tête et moi je baisse la tête. Il va parler 5 minutes et 6e minute, il va s'arrêter et puis on va parler d'autre chose. Et ça s'est passé comme ça. On arrive là, puis boum, 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 bah, bah. J'ai pas répondu, elle n'a pas répondu. J'ai juste dit, vous êtes parents de Christian. Vous êtes mes parents, vos parents. On vous aime. Après toutes ces presque insultes, on vous aime. On vous aime. Ah ben donc, on va parler d'autre chose. Ben, on a parlé de De Gaulle, parce que De Gaulle était à l'époque le président. On a parlé de De Gaulle, de la guerre. Il m'a raconté comment il a vécu. J'écoutais. Et depuis ce temps-là, toujours le sourire. On n'a jamais eu de problème. Mes enfants n'ont jamais vu une dispute entre mes beaux-parents et nous. Ils ont toujours été rendre visite. Et ça s'est bien passé. La bénédiction. La bénédiction. Aujourd'hui, ça ne me touche pas. Mes amis, si quelqu'un parmi vous aujourd'hui, vous avez un problème dans ce domaine-là, moi, je ne sais pas, je refuse même quelquefois quand on me dit, Antoine, je te demande pardon. Mais je n'ai pas besoin de ton pardon, tu ne m'as rien fait de mal. Non, je n'écoute pas après ça. Règle ta vie entre Dieu et toi. Amen. Voilà, je voulais vous parler parce qu'au moins 5 personnes sont venues me voir pour parler de ça, que c'était un combat, une difficulté. Bénissez vos ennemis. Et si on bénit nos ennemis, l'affaire de justice, de justification, c'est de Dieu, mais pas nous. Amen. Vous êtes prêts à retourner chez vous? J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, puis ben, il dit, voilà, j'ai frappé ma femme. Est-ce que c'est facile? Et puis d'autres choses. Est-ce que c'est facile de pardonner? D'accord, c'est pas facile. Mais n'annonce pas la malédiction, mais la bénédiction. Je vais reprendre encore Étienne pour que ça puisse vous bouleverser. Interpellez, réglez votre situation, cette situation, voilà, et bénissez la malédiction, enlevez de votre bouche, même si on vous fait mal, même si on vous critique, ou même si on vous fait je ne sais pas quoi. Seigneur, tu bénis cette personne, tu les bénis. Ce n'est pas mon affaire. Il faut que cette personne soit sauvée. Tant qu'elle est dans la haine, dans les jugements, elle passe à côté de l'essentiel. Moi, je suis là pour porter la paix et la joie. Anne, tu acceptes ce langage au moins? Ah, c'est pas facile, hein, ce que je dis. Hein. Je sais. Ouais. Je parle à Anne, mais il y en a plusieurs Anne ici. Et il y a les hommes. Hein. Réglez ça aujourd'hui. Pas demain, mais même aujourd'hui, vous allez voir combien vous allez être bénis. Amen. Bon, levez la tête un peu. Hein. On avance. Alors, Étienne, les actes des apôtres, chapitre 7, je reprends encore voilà, pour soutenir cette pensée. Je vous ai parlé de ça, mais j'étais, à l'époque, quand je parlais de ça, je n'étais pas vraiment... Je ne mesurais pas cette importance. Donc, les Actes des Apôtres, chapitre 7. Et donc, 59-60, il y avait la dernière fois le problème parce qu'il n'y avait pas 60. Le 59, il lapidait Étienne. Il jetait dans... Bon, je vais lire ma version. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Ça veut dire la même chose, hein? Mais je préfère ma traduction. Quand vous lisez juste avant, s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Est-ce que vous entendez bien? Seigneur Jésus, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, ils sont dormis. Il n'a pas proclamé la malédiction, mais il a proclamé quoi? La bénédiction. Vous vous rendez compte, je répète, je vous ai parlé de ça. Il y a les pierres qui sont jetées sur lui. Vous vous souvenez? Voilà. Oh, il était lapidé. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus. Et il a dit, Seigneur, accueille mon esprit. Mais ce qui était très fort, ne le charge pas de ses péchés. C'est fort, hein? C'est comme si qu'il voulait dire, il me lapide, c'est les péchés, c'est de meurtrier. Le meurtre égale quoi? La mort éternelle. Et puis lui, il dit, ne le charge pas de ses péchés. Il enlève le péché. Sébastien, c'est bon? Ça interpelle, non? Mettez-vous dans une situation où on vous juge, on vous parle méchamment, et puis au lieu de le maudire, de lancer une malédiction, bah vous dites la bénédiction. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire ça. Allô? Joanne? Ça passe? Dave? David? Wilfried? Blessing. Ah, pardon. Bénédiction. Donc, vous voyez, c'est formidable. Et donc, vous avez compris, le chapitre 8, le premier verset, nous dit, Saul, qui était Paul, d'accord, Paul, mais là, il n'était pas encore converti, là. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ah! C'est lui qui est un repère pour vous, celui qui en apporte. C'est lui qui est un porteur de l'évangile. Il était aussi meurtrier. Il a approuvé le meurtre et il était meurtrier. Ève, tu es consciente? Fort, hein? Chanel, c'est bon? Je répète. Saul, qui était Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et puis ensuite, on va aller plus loin. Voilà, donc je voulais juste accrocher là pour vous parler ensuite de ce meurtrier qui était interpellé par Jésus et qui a donné sa vie à Jésus. D'accord? Donc, chapitre 9. Jeannette, tu vas nous lire parce qu'il y a 18 versets. Donc, prenez patience, écoutez bien, parce qu'il y a des, on va retirer des expressions fortes de ce texte-là. Voilà, donc chapitre 9, premier verset, et puis tu nous lis 19 versets. Merci.
Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé.
Merci. Alors, vous voyez Paul, celui qui était là, à la lapidation d'Étienne. Il a approuvé la mort. D'accord ? C'est bon ? Il était d'accord. Et ensuite, avec les autorisations, il va chercher encore d'autres autorisations. Et il avait tous les droits, donc si vous voulez, toutes les autorisations, pour aller chercher qui ? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ça va ? Voilà. Il avance, puissant, un homme intelligent, un homme très diplômé. Ouais. Et il pensait qu'en faisant ça, servait Dieu. Voilà, parce qu'il faisait partie aussi de Sanhédrin, d'une instance spirituelle, traditionnelle, etc. Donc voilà, on avance. Ah, j'espère que j'aurai 5-10 personnes, je vais les arracher, c'était sa joie, puis on va les mettre dans les prisons, on va les couper la tête, on va les lapider, etc., etc. Donc il était tellement convaincu qu'il était sur le bon schéma, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pour ça ma prédication ce matin, j'ai intitulé « La méthode de Dieu pour sauver l'humanité, c'est qu'il n'y a pas de méthode ». Je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, même j'ai dû avoir des expériences personnelles, c'est normal. Voilà, mon père, il a été interpellé par Dieu, par une autre façon. Ma mère, d'une autre façon. Et mes enfants, encore différemment. Quelquefois, je disais, vous êtes comme des chrétiens, des enfants bourgeois. pas de défi, pas de problème. Vous avez le chocolat, vous avez du beurre, vous avez de la viande. J'ai pensé à mes parents, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Vous vivez bien, on vous conduit à la réunion, puis quelquefois on nous dit, papa, c'est obligé que j'aille demain au culte. J'ai dit, écoute, on te conduit déjà, c'est déjà pas mal. Et deuxièmement, si tu n'as pas besoin de Dieu, va pas. Mais si tu as besoin de Dieu, attention, hein, parce que tu grandis. C'était aussi comme ça, vous voyez. Ah oui, j'ai besoin de Dieu. Ah bon, si vous avez besoin de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis, ça marchait. Ça marchait. Donc, vous voyez, chacun d'entre vous, voilà, vous avez une conversion, une rencontre avec Dieu, avec Jésus, d'une certaine façon. Mais là, Paul, c'était encore différent. Quoi ? Tout à coup, il y avait une lumière, une puissance surnaturelle. Quelqu'un était Jésus. Il s'est dit, moi, je veux te barrer la route. Et puis voilà, il l'interpelle. Quelle interpellation puissante. Amen. Vous avez vu, hein, on lisait ça. Voilà, tout à coup, cet homme tombe, il ne voit plus. Et voilà, il y avait même la question. Verset 4, je pense, hein, nous dit. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Est-ce qu'il a persécuté Jésus? Allô? Moi, je ne vois pas, hein. Comment on peut être d'accord avec ça? Il a persécuté Jésus. Jésus, il était là-bas au ciel. Hein? Allô? Il a persécuté les chrétiens, mais pas Jésus.
C'est pareil.
Ah, c'est pareil. Ils sont convaincus. Hein? C'est lui qui persécute un enfant de Dieu. Il persécute qui? Dieu, Jésus. Si tu critiques un frère ou une sœur, tu critiques qui? C'est vrai? Si tu n'aimes pas ta voisine à gauche ou à droite dans l'auditoire ici, si tu n'aimes pas, qui? C'est pour ça que Sandy nous a encouragé de montrer le sourire. Tu penses que sourire, c'est assez? Bon, c'est déjà ça. Hein? Sébastien, t'as compris? Et si tu critiques ton mari, tu critiques qui? Et si tu n'es pas gentil avec ta femme, tu n'es pas gentil avec qui? C'est vrai? Ah c'est pour ça, moi je lui dis toujours, mais en rigolant, t'es gentil avec ta femme? Et là, quelquefois, je découvre des catastrophes. Parce qu'on me pose cette question, quelqu'un qui est honnête avait dit ça va vraiment pas. D'accord, on va t'aider. Pourquoi me persécutes-tu? C'est fort, hein? Voilà, nous sommes concernés. Il faut régler toutes ces situations. Vous savez, au moment où vous rentrez ici, on ne devrait même pas entendre, quelquefois, mécontentement, la jalousie, les jugements. Parce qu'automatiquement, si tu juges, tu n'es pas content, si tu critiques quelqu'un, tu fais ça contre qui? Contre Jésus. C'est terrible, hein? C'est important, hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un différent? Bah, il faut s'expliquer. Bah, viens ici, on boit le café. Et même si ça ne va pas, je te bénis quand même. Moi ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est dur, ça. Pff, ça chauffe quelquefois. Bah, il dit, Seigneur, non, j'ai réglé ça une fois pour toujours. Il faut que j'avance. Voilà. Pourquoi me persécutes-tu? Voilà, vous voyez? Donc là, la même chose. Ensuite, nous avons cette expression, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Voilà, ben là, la même chose, nous sommes concernés. Dieu nous touche d'une certaine façon. Vous voyez, Dieu mettait tout de suite une stratégie d'action pour Paul, parce que Dieu ne voulait pas que Paul devienne un électron libre, tout simplement, un papillon, mais quelqu'un qui passe dans la volonté de Dieu, qui accepte les recommandations de Dieu, voilà, et qui puisse être bien formé, pas déformé, mais formé. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont déformés, tordus. Des ministères qui sont tordus. Mais je les aime quand même. Donc voilà, Paul, il est devenu Paul après, Saul, il a accepté de se faire conduire à Damas, d'accord? Il a obéi. C'est pour ça, nous, quelquefois, quand les gens viennent ici, j'ai même parlé juste avant le culte avec une dame là, Karine. J'ai une dame, excuse-moi, Karine. Je voulais lui poser la question. Karine, ça va? Tu avances? Tu penses au baptême? Et c'est elle qui m'a dévancé. Je voulais ouvrir la bouche et c'est elle qui me dit bah, j'aimerais vraiment prendre mon baptême. C'est fort, hein, Karine, on va t'accompagner, tu n'es pas toute seule. Hein. D'accord? David, tu n'es pas tout seul, hein. Tu étais le premier. Hein. David, il est là-bas, hein. Il avance, il est souriant, et voilà. On va les baptiser, on va les marier, on va tout faire pour lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je ne me suis pas trompé. Donc vous voyez, voilà. Les personnes qui découvrent Dieu, hein, Sébastien, c'est ça. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de comprendre. Je ne vais pas juste développer ma philosophie concernant Dieu, mais il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi. Je vais les écouter parce que c'est Dieu qui les envoie pour que je puisse comprendre. On est bien d'accord? Et Paul, vraiment respecté cet appel de Dieu. Lève-toi, donc il s'est levé, vous voyez, quand on se lève, on est prêt pour aller plus loin. Hein, lever, c'est déjà un geste fort. D'accord, on va aller plus loin. Et puis voilà, il est parti donc à Damas. Et il a écouté les conseils de Dieu qui venaient de la part des hommes, par les hommes, de la part de Dieu, par les hommes. Alors, Dieu pouvait continuer à lui parler, parce qu'il lui a parlé, il y avait une lumière, cette interpellation, mais Dieu fait sa part, enfin, le Seigneur fait sa part, d'accord, on est bien d'accord? Et puis ensuite, il se tourne vers, il s'adresse à Ananias. J'ai fait mon travail, d'accord, j'ai interpellé cet homme, d'accord, il a été secoué, il a compris qu'il me combattait, qu'il me persécutait. Ah ben maintenant, j'arrête mon travail, ma part, et je délègue aux hommes pour continuer le travail. Donc il se tourne vers Ananias, d'accord, et il dit, Ananias, lève-toi, tu vas voir cet homme-là, il t'attend. Bon, je passe les détails, on a lu le texte. Et puis ensuite, tu vas lui expliquer ce qu'il doit faire. D'accord? Vous avez compris ça comme ça? Donc vous voyez, Dieu met une stratégie d'action. Interpellation, le salut. Ensuite, il se sert des uns et des autres. Donc nous, la même chose, toi et moi, Dieu peut se servir de toi et moi. Dieu peut se servir de nous. Hein? Il était, quand Ananias est venu vers lui, donc il lui dit, Jésus m'a envoyé pour que je vienne te parler. D'accord? Jésus t'envoie, toi et moi, nous envoie pour que nous puissions communiquer la vie là où il y a la mort. Amen. Voilà, et puis pourtant, Dieu pourrait, il est capable de secouer n'importe qui dans la rue. Il est capable, non? Voilà, policier, le président, secouer. Voilà, on voit une puissance. Mais non, bah Dieu a décidé de travailler avec nous. C'est un privilège. Moi, je suis tellement heureux que Dieu ne fait pas tout. Je suis tellement heureux. Bah, je dis, Seigneur, bah, quelle grâce, quel privilège, quelle faveur que je puisse, que tu m'as donné la possibilité de faire n'importe quoi. Mais ceux qui chantent, ceux qui louent, ceux qui témoignent, ceux qui prêchent, je suis là, Seigneur, et tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé. Pour une mission. Amen. Amen. Voilà, nous sommes envoyés. Puis nous l'église, notre église, ben nous sommes envoyés. Comme Ananias qui était envoyé pour expliquer à Paul. Et qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez compris. Le meurtrier Paul était rempli du Saint-Esprit. Aurélie, que pendant que vous avez chanté, je vais essayer de revenir sur cette expression. On voit Dieu. Dieu, l'Esprit de Dieu tombe sur ce lieu. Excusez-moi. L'Esprit de Dieu tombe sur ces lieux. C'est un peu direct, tombe. Hein. On voit ton peut-être, je ne sais pas. Vraiment, c'est comme ça, c'est fort. Tombe. Et puis pendant que nous avons chanté ce chant, cette expression, je me suis retourné à droite, à gauche, et je dis, oui, tout le monde chante, c'est bien. Et puis à un moment, je me suis dit, Esprit de Dieu, est-ce que tu es tombé? Sur quelqu'un, je vois, Wilfried, il était normal. Il n'était pas comme Paul. Chris, ça va, il était comme ça. Voilà, puis je me suis dit, il tombe. Quand l'Esprit de Dieu tombe, il y a quelque chose qui se passe. Bon, maintenant, oui, on va dire, oui, dans notre intellect, dans notre cœur, tout ça. Mais on veut quand même plus. On veut être secoué par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui tombe, par le feu de Dieu tombe. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, on va applaudir le Seigneur, oui. Voilà, t'écoute. Il est bon, formidable. Donc voilà, Ananias est arrivé là, il a prié pour Paul, et Paul était rempli du Saint-Esprit, d'accord? Comme Dieu a envoyé Ananias, je me répète, il nous envoie aussi. J'ai cherché cette dame ce matin, elle n'est pas là. C'était dimanche dernier, ça vous devez savoir quand, deux dimanches, je prêche, il n'y a pas de nouveau, je vous cache pas que je ne suis pas content. Mais bon, attention, parce que les mots ont une importance. Je suis toujours content, mais toujours insatisfait. Ça va mieux comme ça? Ah ben, je suis insatisfait. Ça va? Et dimanche dernier, cette dame, donc là c'est bon, parce que dimanche dernier, c'est bon. Il y a une bougie qui vient avec cette jeune dame. Elle me dit, je te présente ma copine, elle est là pour la troisième fois. Ah, bah c'est bien, c'est formidable. Et je voyais que c'était à fruits mûrs. Et j'ai dit à cette dame, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle attendait que ça. Elle m'a dit, oui, je donne ma vie à Jésus. Ah! Pendant deux dimanches, il n'y avait personne. Troisième dimanche, il y a quelqu'un. Là, je vais attendre deux dimanches. Quelle joie pour moi! Vous êtes heureux, le fait que Paul était sauvé. Mais cette dame, elle a la même importance. Amen. Nous avons tous une importance. Nous sommes tous passés de la mort à la vie. Amen. Amen. Donc, vous voyez? Alors pour moi, c'était vraiment une bénédiction. J'étais content. Je vivais toute la semaine avec tout ça parce que je disais, ah, je suis content. Et puis, avant un moment, bon, excusez-moi si vous êtes fâchés par ce que je vais vous dire. Ah ben, je suis quand même fier de moi. J'arrive encore à bouger les choses. Bon, c'est une rigolade. Mais, voilà, une âme qui donne sa vie à Jésus. Bon, Samuel, je te vois un peu trop calme dernièrement. Hein. Il faut qu'on se parle après. Hein. C'est comme ça, Samuel. Hein. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Bon, excuse-moi. On avance. On va se lever ensemble. Bon, vous avez compris mon message?